Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Adrien Bourg.
Bonjour Nathalie Cardon.
Alors, ravi de vous recevoir dans ce deuxième entretien. Quelques clés pour vivre et peut-être quelques pieds pour mieux comprendre, mieux discerner ce qui se vit aujourd'hui dans notre monde, la société, notre église, nos paroisses, ces églises qui se vident, qui semblent se vider de plus en plus, ces catholiques qui s'éloignent de cette pratique sacramentelle de l'Église, hein, avec l'Eucharistie, la confession, pour se tourner, peut-être par curiosité, chercher du bien-être, chercher de la consolation, chercher des guérisons vers d'autres nouvelles spiritualités. Alors je pense au yoga, je pense à tous ces séminaires de guérison qui invitent à guérir à tout prix et vite. Alors comment s'y retrouver? Que souhaitez-vous en tant qu'auteur dans cet ouvrage « Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités » faire passer comme message? Et merci.
Alors la question des nouvelles spiritualités, on peut l'aborder comme nous l'avons fait hier, finalement, sous l'angle des dangers ici et maintenant pour telle et telle personne. Mais il y a aussi la question de leurs effets dans l'histoire. Et c'est vrai que quand on a cherché à comprendre les raisons de l'éloignement d'une partie importante des fidèles catholiques, des bancs de l'Église, de l'éloignement de la pratique des sacrements, etc., il y a une multitude de raisons, les historiens ont beaucoup écrit dessus, mais il y a cet élément qui a finalement été peu étudié, peu pris en compte, et donc l'une de mes ambitions, c'est d'essayer de porter un petit peu le projecteur sur cette question-là, c'est-à-dire de savoir si ces courants ont joué un rôle dans, justement, l'effondrement du catholicisme dans notre pays. Et quand on regarde le phénomène uniquement dans sa situation actuelle, on voit le résultat actuel, c'est-à-dire effectivement une grande présence de ces courants, y compris chez un certain nombre de personnes, soit qui viennent de l'Église, soit qui ont grandi dans sa périphérie immédiate, en tout cas qui sont sensibilisés à la foi chrétienne, mais qui soit ont pris leur distance, ou soit n'y sont jamais vraiment rentrés. Mais quand on commence à remonter le temps et à étudier quelques-unes des périodes charnières du déploiement, de la population, popularisation de ces courants, on se rend compte qu'il y a des synchronicité assez forte entre les périodes de pic de popularité de ces courants et les périodes d'éloignement de l'Église. Une période très emblématique à ce sujet, ce sont les années 60, où avant le Concile Vatican II, avant même un certain nombre de crises internes de l'Église, les questions autour de la liturgie, autour de la liberté religieuse, etc. Avant toutes ces polémiques, il y a eu une grande vague de popularité des courants ésotériques, avec le livre Le Matin des Magiciens, la revue Planète, c'était 1960, et puis l'émergence de figures comme celle d'Arnaud Desjardins, qui ont commencé à promouvoir le yoga, avec des documentaires qui sont passés à la télévision. Il y avait une seule chaîne à l'époque, donc grande audience, grande popularité de ces documentaires d'Arnaud Desjardins. Les premières images des Tibétains en exil, grande séduction de ces figures des lamas avec tout l'imaginaire qu'il y avait derrière, le bouddhisme magique, etc. Tout ça passé au tamis, façonné par la pensée ésotérique occidentale qui est bien plus ancienne, qui avait un terreau très ancien, qui a été cultivé par ces personnes. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu une concurrence sur le plan historique entre ces courants et la foi chrétienne. Et cette concurrence a produit ses effets, puisque aujourd'hui, on voit le succès de ces courants chez d'anciens chrétiens.
Temps de crise, on est dans les années 60, juste avant le Concile Vatican II, qui peut expliquer. C'est une fragilité, l'Église ne sait plus, au fond, garder ses fidèles, l'Église ne sait plus nourrir ses fidèles, l'Église ne sait plus, au fond, permettez-moi de séduire ses fidèles pour les garder.
Alors, c'est évidemment une question compliquée, parce que déjà, l'Église n'a pas à séduire ses fidèles, on annonce l'Évangile.
Je souhaitais vous faire...
Oui, bien sûr. On annonce l'Évangile et les personnes l'accueillent ou le rejettent. Et quand on regarde dans l'Évangile la manière dont se comportent les disciples de Jésus, les personnes qui se mettent à sa suite, on voit à certaines périodes de l'apostolat de Jésus, des personnes qui s'éloignent, qui prennent leur distance. Cette parole très forte, je crois que c'est dans l'Évangile selon Saint Jean, elle est dure cette parole qui peut l'entendre, et beaucoup cessèrent de le suivre. Et Jésus qui dit à ses disciples, et vous, voulez-vous partir vous aussi? Nous sommes libres. Donc on annonce l'évangile, et l'évangile nous est annoncé, et on l'accueille ou on le rejette. Enfin, c'est normal qu'il y ait des personnes qui ne l'accueillent pas, qui peuvent peut-être l'accueillir plus tard, mais bon, voilà. Mais après, il y a la question du discours qui est tenu. Et l'Église a une annonce qui est claire, nette pour tout le monde, compréhensible. Dieu vous aime, Dieu vous a créé par amour, et Dieu veut vous sauver, il veut vous racheter du péché originel et de ses conséquences. Il est venu dans ce monde, il est mort sur la croix pour vous, il vous veut auprès de lui, dans sa communion éternelle, Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans ces courants, on va prétendre vous donner plus et mieux que cette annonce, avec l'annonce d'un salut sans médiation, avec l'annonce d'un Dieu qui serait à l'intérieur de vous, et un petit acte d'intelligence ou un petit acte d'une illumination au cours d'une session de yoga vous fera vous passer de toutes les médiations, vous fera vous passer de toute l'épaisseur de l'histoire, etc. Donc il y a tout un discours véritablement concurrentiel, une proposition alternative qui est pour le coup très séduisante, parce qu'elle permet d'écarter plein de points problématiques justement de notre foi.
Et vous pensez à quel point un exemple
Alors, un exemple très, très frappant, c'est la question des sacrements. C'est-à-dire que dans l'Évangile, on voit Jésus qui institue les sacrements, qui pose le baptême comme porte d'entrée nécessaire au salut. Et là, dans ces courants, on vous dit non, 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 pas besoin de médiation, le divin est à l'intérieur de vous, donc il n'y a qu'à en prendre conscience. C'est quelque chose qui vient à la fois de courants occidentaux, le néoplatonisme, etc., et à la fois des influences orientales, cette idée que par un acte de prise de conscience, de réalisation, on pourrait prendre conscience d'un divin absolu. Est-ce que ces promesses sont légitimes, tenables? Je n'en suis pas certain.
Alors, comment, au fond, est-ce qu'on doit rentrer dans cette lutte, dans l'Église catholique, pour lutter contre ces nouvelles spiritualités qui abondent de partout?
Alors, à titre personnel, évidemment, je n'ai pas de réponse absolue et définitive. Moi, ce qui me semble utile de faire avec les outils qui sont les miens et avec le parcours aussi qui est le mien de réflexion sur ces sujets, et puis un parcours personnel aussi, c'est d'éclairer les étapes historiques de ce succès des courants ésotériques. Parce que dès lors qu'on braque le projecteur historique sur ces questions, on se rend compte qu'il y a quand même des zones qui ne sont pas très lumineuses et qu'il y a des choses qui posent un petit peu problème et que ça mérite d'être examiné de près, justement. C'est peut-être pas aussi lumineux que ce qu'on imaginait au départ. Et puis après, donc, il y a la question tout simplement d'être capable de reproposer, de redire l'annonce de la bonne nouvelle avec des mots susceptibles de rejoindre des personnes qui ont été séduites par ces spiritualités, et soit qui en ont vu elles-mêmes les limites, ou soit qui sont dedans et qui perçoivent qu'il y a un problème et qui n'arrivent pas trop à l'entendre. Et justement, je pense que l'annonce de l'Évangile, l'annonce de ce Dieu amour et trinité, qui n'est pas ce principe impersonnel, ce grand océan des spiritualités orientales, qui est beaucoup plus personnel, justement, qui s'adresse à nous personnellement, à chacun de nous, et qui est inscrit dans l'histoire, etc., doit pouvoir être entendu pour justement pouvoir rejoindre les personnes qui sont dans une espèce de tension, d'incertitude.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité, au sein même de l'Église, des services de paroisse, d'accueillir, est-ce qu'on peut parler de clients qui s'étaient peut-être de pratiquants et qui sont aujourd'hui peut-être dans ce positionnement de questionnement pour faire peut-être aussi un retour? Est-ce qu'on est formé aujourd'hui pour accueillir ce type de clientèle qui souhaiterait au fond revenir faire une démarche et passer peut-être le parvis de la porte de l'Église?
Alors je dirais oui et non finalement, parce que comme pour beaucoup de sujets, l'Église au sein du catholicisme, il y a des personnes qui connaissent extrêmement bien un certain nombre de sujets, qui sont très bien formées. Moi-même, je suis un baptisé adulte, je l'ai pas dit depuis le début de l'émission.
Ce sera demain.
Et j'ai été formé par les dominicains de Bordeaux, qui étaient d'excellents théologiens et qui m'ont permis justement de comprendre des choses, de saisir des choses qui auraient été plus difficilement accessibles par mes propres forces. Voilà. Et donc, on a les ressources. Après, il faut regarder au cas par cas, et puis il faut aussi, il y a tout un travail justement Il y a eu des personnes dans l'Église qui étaient des spécialistes de ces courants. Il y a eu le père Jean Vernet pendant un temps. Il y a eu le père Verlinde qui est toujours vivant et qui s'est beaucoup occupé de ces sujets. Aujourd'hui, nous avons le père Jean-Christophe Thibault qui écrit lui aussi aux éditions Artege et qui publie de très bons livres là-dessus. Nous avons les ressources. Après, il y a toute une réflexion à mener sur la mise à disposition, l'adaptation de ces ressources.